Des livres plein les oreilles. Et hop, on s'en remet un petit coup de gel sur les mains. Je sais pas vous, mais bah maintenant ça va mieux parce qu'il fait plus chaud. Mais à un moment donné, j'avais les mains complètement gercées. Vous savez, là, comme des lèvres finalement, à force de mettre du savon puis du gel là-dessus. Salut tout le monde, c'est Clotilde en votre compagnie, Clotilde Sey, qui vous présente des livres plein les oreilles à Canalem, l'émission qui se consacre uniquement aux livres audio. Alors, quand on lit Chien de rue, on s'aperçoit bah, à quel point... Pas un jeune n'est à l'abri d'un dérapage, d'une situation incontrôlable et indésirée qui peut l'amener, oui, à la honte, au remords et puis dans une gang de rue. La série Chien de rue est à ce titre plus qu'éloquente pour nous amener, nous, parents, grands-parents et enfants préadultes aussi, à constater comment une vie peut être bouleversée par un événement devant lequel nous nous sentons impuissants. Je reçois l'auteur de Chien de rue, Laurent Chabin, et son jeune lecteur, Nicolas Savard-L'Herbier. On va parler ensemble, surtout de cette série qui est proposée intégralement en version audio sur notre site internet, livreaudio.vusevoix.com, en précisant que Eliane Préfontaine fait aussi partie de ce projet en tant que narratrice. Et puis à l'émission, on va retrouver avec plaisir l'amie Faline Bobier de Caeb, toujours à l'affût de livres audio accessibles, gratuitement pour toutes et pour tous. Et comme chaque semaine, je vous propose moi-même en seconde partie des nouveautés à vous glisser entre les oreilles. Et puis j'ai quelques petites nouvelles pour vous. Mais pour le moment, juste avant d'accueillir mes premiers invités, par téléphone bien sûr, allons-y dans la rue. La rue avec David Gaudreau se sera enchaînée avec un extrait de Chien de rue de Laurent Chabin, lu par Nicolas Savard-L'Herbier, le tout début du premier livre.
Je suis à la rue, je suis à la vue, juste sous ton nez, presque sous ton aile. Je suis Steve, Gabriel, Eduardo, Mohamed, Gilles, Jesse, je suis, tu es, je suis tué. Je suis l'indifférence et les préjugés, je suis la différence et le jugement. Je suis, tu es, je suis tué par votre silence. Je suis noir, blanc ou jaune, même que souvent je suis gris comme la faune, ou vert fluo picoté bleu électrique. Envers ceux qui me regardent de haut, je suis indigo éclectique. L'isolement n'a pas de couleur, l'odeur du vide comme les dollars, ma douleur bien au-delà de l'or. Intro à la place de l'enthousiasme. Dans un monde où ne compte que le cul ou l'écu de trop, faire figure d'ectoplasme, jouer leur jeu ou être reclus. Ma famine fémine de rien, je pousse des carrosses qui ont l'air pleins. Grand buffet derrière la vitrine des apparences. Je n'ai pas le mois de pause, alors je grignote mes carences. En ces temps de bling-bling où l'ouverture d'esprit est prise dans l'image et son emprise plus hermétique que la prison de Sing Sing, je cherche l'amour, je cherche un signe. J'essaie de lire entre les lignes, trouver le sens à la partie de cache-cache où les insignes de pièces flashent. On est tous dignes d'avoir une place, dans les bras d'un ami, dans un palace, dans un petit deux et demi ou sur un temps de glace. Si je suis dans l'embarras, c'est parce qu'on m'a dit débarrasse. Je suis... Tu es, je suis tué par votre silence. À se faire regarder comme un voleur, c'est bien une valeur, mais on comprend vite notre valeur. 10 piastres la danse ou 10 piastres de l'heure. Ça a l'air que l'égalité, c'était un leurre, leur façon de se faire plus de lueur dans leur chimère. Dans nos chaumières, il fait frette en plein fait d'hiver. Les bien nantis, même bien gentils, ne font pas de pari sur ceux qui touchent le fond du baril. Y a pas que les drogues qui sont dures, c'est pas toutes les fins de mois qui s'endurent. Alors un jour à la froid, je me demande, est-ce que je suis de ce monde? Est-ce que je suis vraiment seul? Est-ce que je me bats encore un round? Est-ce que c'est ce qu'ils veulent? Ils vont voir, je vais l'ouvrir ma grande âme. Je m'aime, je remercie, et même si être à jeun c'est pas un jeu, et faire partie de vous c'est pas un jeu, partout, tout le temps, pourtant, je suis, tu es. Je suis tué par votre silence. Votre silence, silence. Votre sillon dans mes émotions et vos sciences. Science, ce moment, tu sens, tu ressens, tu sais. Ensemble, tout prend son sens, essaie. Qu'on se rassemble sans faux semblant, sans s'endimancher. Juste voir son reflet dans l'autre et s'y pencher. Sans rejet et sans faute. Comprendre que sa détresse, c'est aussi la nôtre. Nous sommes tous un cheveu de la même tresse, tous descendants de la même côte. Que tu aies ou non la bourse, que tu aies ou non la cote, que tu sois dans la course ou que tu marches avec un caillou dans ta botte, je suis, tu es et nous sommes, en somme, ensemble.
Épisode 1. La nuit de la honte.
J'arrive plus à dormir. Je me retourne 100 fois dans mon lit, inutile. Le même cauchemar revient avec plus de force, un cauchemar de haine et de sang, de peur. J'ai l'impression que je dormirai plus jamais, l'impression que j'ai jamais dormi. Pourtant, ça fait même pas une semaine que c'est arrivé. Qu'est-ce que c'est qu'une semaine dans une vie? Pas grand-chose, pour les autres peut-être. Mais pour moi, c'est énorme. C'est comme si j'avais toujours eu honte. C'était samedi dernier. Il faisait encore beau. Sans doute un des derniers jours de beau temps avant l'hiver. J'ai eu envie d'en profiter en allant marcher jusqu'au bord du fleuve, même si c'est assez loin de chez moi. Il restait une bonne heure avant la tombée de la nuit. Mes parents regardaient la télé et ils ne sont même pas aperçus que je disparaissais. Comme toujours, j'ai l'habitude. J'ai traîné un bon moment sur les berges en face de l'île des Sœurs, puis comme le soleil se couchait, j'ai décidé de rentrer. J'étais complètement perdu dans mes pensées. Il faisait noir maintenant. Tout à coup, après une série de ponts sous lesquels j'étais passé presque sans m'en rendre compte, je me suis aperçu que je me trouvais dans le bas de la rue d'Argenson. L'endroit était sinistre, oppressant. Pas une maison, pas un brin d'herbe. La rue était encaissée sous la maçonnerie des ponts. Un dernier tunnel passait sous le chemin de fer. Je l'ai franchi en serrant les fesses, mal à l'aise, oppressé par l'aspect sinistre de la rue. Je débouchais à peine du tunnel qu'un cri strident retentit.
Alors évidemment, pour savoir ce qui va se passer après ce cri strident, je vous invite bien sûr à aller sur notre site livreaudio.vusezvoix.com pour découvrir cette série fantastique que je vous présente aujourd'hui grâce à une série qui a été créée par Laurent Chabin, qui est l'auteur, qui doit être en ligne en ce moment. Bonjour Monsieur Chabin.
Et bonjour.
Et puis, je devrais aussi parler avec Nicolas Savard-L'Herbier, qui est le narrateur, qui est donc cette voix que vous avez entendue il y a maintenant quelques minutes. Bonjour, Nicolas.
Bonjour.
Alors, j'en ai un qui est très loin, j'en ai un qui est très proche, mais je vous entends bien tous les deux et je pense que vous m'entendez bien aussi. Honnêtement, moi, c'est la première fois que je fais ça à trois voix comme ça au téléphone. Covid-19 oblige. Je suis ravie de faire votre connaissance, Laurent, parce que je dois vous avouer que vous ne faisiez pas partie de ma culture et je le regrette beaucoup. Et je me dis qu'il y a peut-être d'autres personnes qui ne vous connaissent pas. Alors, on va en apprendre un petit peu plus sur vous. Laurent, vous êtes d'origine française.
Oui.
Mais vous êtes, comme moi, je pense, installé depuis maintenant pas mal de temps, si je ne m'abuse.
Oui, à Montréal, ça fait 13 ans. Au Canada, ça fait 26 ans.
OK. Je vous demanderai pas pourquoi, etc., parce qu'on se fait souvent poser la question, puis à un moment donné, ça nous fatigue. En tout cas, je sais pas vous, moi, oui. Mais Laurent...
Le goût de voyager.
Oui, c'est ça. On suit le vent.
Et voilà, on le précède.
Laurent, vous avez notamment gagné le prix Polar Jeunesse du Festival de Saint-Pacôme en 2016 et en 2017. Félicitations. Vous avez écrit plus de 80 romans. C'est pour ça que j'aurais pas dû avouer peut-être que je ne vous connaissais pas, parce que c'est quand même énorme. Vous êtes ce que certains appellent un auteur atypique et vous affectionnez, c'est ce que j'ai pu lire sur vous, particulièrement les romans noirs pour adultes et pour la jeunesse. Autrement dit, vous n'écrirez jamais de romans d'amour.
Non, j'ai essayé. quelques-uns de mes romans noirs auraient presque une petite idylle comme ça pendant quelques pages.
Mm-hmm. Mais ce n'est pas votre truc du tout. Alors pourquoi le roman noir? Et vous écrivez à la fois pour les adultes et pour la jeunesse. Hein. Et à chaque fois, c'est sombre, c'est noir?
Oui, et puis assez amoral, faut bien le dire.
Oui.
Mais pourquoi ça? Parce que j'aime bien rire, j'aime bien manger, j'aime bien faire des tas de choses agréables. Mais je vois le monde en noir. Alors quand je le dépeins, c'est en noir.
Vous voyez le monde en noir. Permettez que je rebondisse sur ces mots-là. Vous êtes un quoi? Ben, autrement dit, vous êtes un épicurien pessimiste?
Voilà, ben, je suis épicurien chez moi et dégoûté à l'extérieur.
Oh, oui.
Bon, dégoûté, c'est un bien grand mot. Je commence très jeune, on finit par s'habituer à tout. Mais c'est vrai que je trouve le monde laid.
Oui.
Désagréable, mal foutu. Et puis, je ne vois pas grand espoir de guérison.
Et c'est ce monde...
Je ne devrais peut-être pas dire ça à la radio.
Si, mais et c'est ce monde-là que vous avez envie de nous dépeindre, notamment par cette série-là, qui n'est pas une série facile, qui est une série dite jeunesse, mais bon, on s'entend que c'est...
Jeunes adultes.
Jeunes adultes.
Oui, hein. Même adultes. J'ai quand même pas mal de lecteurs qui lisent mes romans pour jeunes adultes, parce que de leur dire même, certains me l'ont dit, ils ne peuvent pas lire mes livres pour adultes.
Ah non?
Qui sont vraiment noirs foncés, alors.
Ah, ok. Ouais. Ok. Alors, restons sur cette série-là. Nicolas Savard-L'Herbier. Oui. Vous êtes là, Nicolas?
Oui, très bien. Oui, je suis là. M'entendez-vous bien?
Oui, je vous entends très, très bien. Nicolas, vous êtes tombé à pieds joints dans cette série-là en tant que narrateur, lecteur. Bon, vous êtes encore jeune, mais enfin, vous avez quand même dépassé le stade du jeune adulte dont il est question là. Est-ce que vous avez embarqué comme un adulte, j'allais dire, vous l'êtes, mais vous comprenez ce que je veux dire. Est-ce que vous avez embarqué dans cette histoire-là?
Oui, parce que je crois que, comme Laurent le mentionnait, c'est pas une histoire... Je trouve enfin que le narrateur, si on oublie qu'il va à l'école secondaire, si on oublie qu'il habite chez ses parents, correspond à plusieurs types de personnages et à beaucoup de tranches d'âge. Moi, je regarde beaucoup de télévision, de thrillers, de trucs policiers et tout, et je trouvais que son ascension vers le mal, ben là, aussi c'est un grand mot, mais le crime et cette espèce de passion qu'il développait pour le crime et la violence, ça pouvait correspondre à plusieurs types de personnes et plusieurs groupes d'âge. Donc, j'ai pas trouvé ça plus trop jeune pour moi. Moi, j'ai 36 ans, puis ça aurait pu arriver à quelqu'un de mon âge aussi. Donc, j'ai pas eu toute difficulté à mettre dans la peau de ce personnage-là.
Laurent Chabin, j'ai vu aussi que certains vous définissaient, peut-être que c'est votre éditeur ou un de vos éditeurs, parce que je pense que vous en avez eu quand même plusieurs, comme un romancier poète. Est-ce que vous assumez ça, cette définition-là?
Alors là, question poésie, je suis vraiment une antiquité. Moi, il faut aller jusqu'à Nerval et Baudelaire après ça.
Ah oui.
Je ne sais pas du tout.
C'est vrai.
Tous les critiques ont bien le droit de percevoir ce qu'un auteur écrit comme ils le veulent. De toute façon, la chose étant écrite n'appartient plus à l'auteur. Et en plus, étant récité, alors là j'ouvre une petite parenthèse parce que je ne connais pas Nicolas. Je voulais quand même lui dire que j'ai écouté la série au complet, parce que moi j'ai eu droit aux 10 épisodes que j'ai écouté pratiquement en ligne parce que je ne pouvais pas m'arrêter.
Wow.
C'est vrai que je n'étais plus l'auteur du texte. C'est lui qui lui donne vie et s'en faisait un roman écrit par quelqu'un d'autre et que j'ai écouté avec plaisir. Et c'est là que je me rends compte à quel point le théâtre ou rendre vivant un texte qui malgré tout n'est quand même qu'un ensemble de petits gribouillis noirs sur une page, le rendre vivant pour les sens, ça donne une dimension complètement, complètement différente. Si j'avais à le réécrire, je corrigerais certaines choses pour que Nicolas puisse être encore meilleur.
Nicolas, c'est du compliment, ça?
Mais oui, j'ai envie de retourner le compliment en disant que c'était un texte qui était très agréable à jouer aussi, qui se lisait très bien, donc qui était facile d'incarner, dans le sens qu'on ne se posait pas trop de questions, c'est assez clair, pourtant c'était pas simple, mais rapidement j'ai pu me glisser dans la peau de ce personnage-là, justement parce que c'était fluide, ça coulait bien. Je trouvais que c'était un texte qui était accessible, qui était pas, il fallait pas se creuser trop la tête, on comprenait tout de suite ce que l'auteur voulait dire, où il voulait aller. Ça a été un plaisir à jouer.
Ouais. Puis c'est vrai
que malgré tout, il y a encore des petits détails qui font un petit peu trop écrits. Je suis quand même un romancier, je ne fais pas de théâtre, je ne fais pas de chansons, et je me rends compte que j'aurais pu être encore plus oral. Mais c'est quelque chose qui est très très difficile, parce que quand on écrit, j'ai beau avoir une petite technique que Flaubert utilisait aussi, à savoir que je lis à voix haute quand j'écris quelque chose.
C'était ma prochaine question.
Pour voir si ça sonne. Et il m'est arrivé des choses très curieuses, un éditeur qui, pour un point de détail, mais là, je remplacerai ce mot-là par un autre. Bon, je regarde ça, je lui dis, ok, lis la phrase à voix haute. Il la lit. Je lui dis, maintenant, lis avec ton mot.
Ah ouais.
Hein,
c'est intéressant. Ah,
très intéressant.
Ça marche pas. Et je fais ça systématiquement parce que c'est très très important pour moi, surtout pour des lecteurs jeunes qu'il faut peut-être parfois un petit peu forcer, et encore pas tant que ça, pour qu'ils lisent. Le langage écrit est un peu tannant, puis comme auteur, c'est difficile de se rapprocher du langage oral sans que ce soit du « ouais, t'sais, ben, pis ».
Ouais.
Donc il faut trouver une espèce de juste mesure, c'est pas simple, et Nicolas a tellement rendu justice au texte et c'est tellement meilleur.
C'est génial, hein. C'est
interprété comme ça. C'est pas juste, il ne lit pas.
Non.
Il interprète le personnage. Il est, ça se sent là, quand il dit qu'il est embarqué dedans, c'est clair qu'il est dans la
Absolument.
Peau de...
Absolument. Mais Nicolas, vous avez une oreille de comédien, parce que ça prend beaucoup d'oreilles pour faire de la lecture, et de musicien. Hein. On va en parler un petit peu plus tard. Mais je voudrais vous poser une question. Quand vous entendez la voix de Laurent Chabin, est-ce que vous avez déjà fait de la lecture à haute voix? Est-ce que vous avez déjà lu, Laurent, certains de vos extraits à un jeune public? Parce que vous avez une voix absolument... Moi, je suis en amour avec ce type de voix-là. Ce sont des voix de lecture. Qu'est-ce que vous en pensez, Nicolas?
Ben, c'est une voix, justement, qui attire notre attention. Ça pourrait être
un
Freeman dans un film, là, où un de ces personnages-là. Oui, en effet, je trouve qu'il y a une voix qui porte beaucoup à la narration, justement. C'est curieux, Laurent. Avez-vous déjà lu les extraits de vos livres en public?
Alors, je l'ai déjà fait, et mon éditeur, au bout de 2 minutes, m'a dit, bon, arrête, là, je vais le faire.
C'est vrai? Ah, ouais?
Alors,
ça me surprend quand même.
Non, depuis, j'avoue que je me suis amélioré,
bon.
Et je l'ai refait à la suite, et c'est un petit peu mieux, mais je suis tout sauf un acteur. Quand je lis mon texte, je le lis comme n'importe quel conférencier qui lit son papier et qui endort la salle en 3 minutes, et je me suis rendu compte que il n'y a pas de blanc.
Non, je comprends.
Je lis, puis je ne m'arrête pas.
C'est là qu'on s'aperçoit que c'est un métier. Hein, c'est un métier. Et je vous propose d'ailleurs, parlons de métier, de réentendre d'écouter un autre extrait, voilà ce que je voulais dire, de Chien de rue. Cette fois-ci, c'est un extrait du numéro 2. Rappelez-moi le titre du numéro 2, pardon, je l'avais sous les yeux, et puis mon iPad est en train de planter joyeusement.
Alors j'espère que Nicolas s'en souvient, parce que moi je ne sais pas.
Hélas, non.
Attendez, alors je vais vraiment essayer de retrouver
c'est
ça. Mais je vais le retrouver, mais c'est parce que ça va prendre un petit peu de temps. Alors vous savez quoi? On va vous écouter pendant ce temps-là, et puis donc je vais avoir à peu près 1 minute 30 pour retrouver le titre du tome 2 de cette série de Laurent Chabin, que j'accueille, et de Nicolas Savard-L'Herbier, qui est son narrateur. On écoute.
Le gang, c'était devenu ma famille. On m'avait adopté, j'avais un nouveau nom. Dingo. J'allais commencer une nouvelle vie, une vie d'aventure. Enfin, aventure, pas toujours. Cette nuit-là, par exemple, j'ai rien vu venir. J'aurais dû me méfier pourtant. Je suis plus un garçon comme les autres maintenant. J'appartiens à une bande. On me respecte, ouais. Mais rien n'est jamais acquis. Je dois rester vigilant. Il était assez tard et j'avais rendez-vous avec Jessica. Je suis jamais entré chez elle, j'ai jamais vu ses parents, mais je sais où elle habite. Une petite rue très calme dans Côte-des-Neiges. Jessica est toujours partante pour nos escapades. D'habitude, je l'appelle et elle me guette par la fenêtre. Elle descend en vitesse dès qu'elle m'aperçoit. Sauf que cette fois-là, elle a dû guetter longtemps. À quelques rues de chez elle, je suis tombé sur 2 types assez costauds qui se tenaient sur le trottoir et me barraient le chemin. On aurait dit qu'ils m'attendaient. Il m'a semblé en reconnaître un, celui des 3 à qui j'avais balancé ma barre de fer dans la figure lors de l'attaque dans la ruelle, quelques mois plus tôt, quand Ginger et Doug avaient été blessés. Ça sentait mauvais. J'ai tourné les talons. Là, je me suis rendu compte que 2 autres types me suivaient, l'air aussi déterminé et haineux. L'un des deux a glissé sa main droite dans sa poche arrière. Un couteau? Pas eu le temps de réfléchir. Sur ma droite, il y avait une ruelle et je m'y suis lancé. Mauvaise idée. La ruelle n'était pas éclairée et j'y voyais rien. Les 4 assaillants m'ont pris en chasse. Je suis pas allé très loin. J'ai buté sur un débris de ferraille et je me suis étalé dans la poussière. Le temps de me relever, les autres étaient déjà sur moi. Qu'est-ce que j'ai pris? Ils m'ont roué de coups. Des coups de poing, des coups de pied, des coups de bâton. Combien de temps? Aucune idée. Je me suis roulé en boule sur le sol pour me protéger, mais ça les a pas arrêtés. J'ai dû serrer les dents pour pas crier. L'un d'eux avait un coup de poing américain. Il a profité d'un moment où j'avais le visage découvert pour me frapper à la mâchoire. Il y a eu comme un craquement et j'ai senti le goût du sang dans ma bouche. Ils ont continué pendant longtemps encore, en m'insultant, en me crachant dessus, puis ils m'ont laissé sur le sol à demi-conscient, la figure ensanglantée.
L'épisode 2 de Chien de rue, l'appel du gang, c'est comme ça, ou du gang, ou de la gang. Comme ça, dépendamment de quel côté de l'Atlantique on se situe. Nicolas, j'aimerais que les auditeurs fassent un peu plus connaissance avec vous. Donc nous, maintenant, on vous connaît comme narrateur, mais vous êtes aussi comédien et vous êtes musicien, compositeur. Parlez-nous de vous un peu.
Ben, en fait, moi, j'ai commencé à l'âge de 10 ans, donc ça fait déjà plus de 25 ans, à faire du doublage, principalement des films de sport de Disney à l'époque, Les Petits Géants, Le Big Green. Okay. Ensuite, pendant l'adolescence, vu que, comme tout petit garçon, ma voix a mué, j'ai dû prendre un temps d'arrêt, et j'ai rapidement recommencé en faisant mes stages de voix de jeu au conservatoire pour reprendre à temps plein à partir de l'âge de 20 ans. Depuis, j'ai fait beaucoup de films, de télévision, de dessins animés, et parallèlement à ça, j'ai aussi développé de carrière de compositeur à l'image pour la télévision.
Ah oui?
Oui, que j'ai commencé. En fait, mon premier gros contrat, ça a été pour faire la trame sonore de J'ai tué ma mère, le premier film de Dolan, avec qui je faisais du doublage à l'époque.
Ah.
Et puis ensuite, tranquillement, je suis allé plus dans la télé avec les Bye Bye et puis des émissions de service à Canal Vie, entre autres.
Mais c'est important quand on est comédien d'avoir plusieurs cordes à son arc. Hein. On le vit encore aussi en ce moment avec ce qui nous est tombé sur la tête là, cette Covid et qui est d'autant plus difficile aussi à vivre pour des comédiens. Alors je pense que c'est important qu'on puisse faire plusieurs choses, quoi, qu'on puisse pas compter que là-dessus. La lecture à haute voix, c'était la première fois que vous en faisiez sur un livre, Nicolas?
C'était ma deuxième fois. Voilà, la première fois, je l'ai fait aussi chez Vue et Voix pour la guerre des Tucs, dans lequel j'ai eu un rôle dans le premier et la suite, la guerre et la cour des Tucs. J'avais beaucoup aimé l'expérience, mais la première fois, c'était vraiment plus un registre pour enfants et tout. Donc, et puis c'était narrateur joué, mais là, c'était vraiment une histoire dans laquelle je me suis impliqué. Donc, l'expérience a été complètement différente cette fois-ci.
Est-ce que vous avez trouvé ça difficile? Bon, par exemple, vous qui êtes qui faites beaucoup de doublage. On peut pas en mettre autant, mais en même temps, il faut suggérer fortement l'émotion. Comment vous avez vécu ça, vous?
J'ai vu ça un peu parce qu'en doublage, il y a le doublage de dessin animé, le doublage de film, il y a la surimpression qui, au final, c'est de traduire en mettant un minimum d'émotion dans la voix. Ensuite, là, vient la lecture à haute voix. Et là, il a donc fallu que j'aille puiser dans à peu près toutes les disciplines parce que, justement, il faut pas surjouer. Mais là, on n'a pas de bande rythmo pour nous donner le rythme. Donc, le rythme, il faut le trouver. Il faut le jouer, mais en lisant le livre. Donc, c'est vraiment une toute autre discipline. Ouais. C'est sûr qu'avoir des prérequis comme la surimpression, le doublage peut aider, mais c'est vraiment, j'ai un peu réappris mon métier en faisant ça parce qu'il a fallu que je fasse une synthèse de toutes les disciplines de voix que je faisais.
Très intéressant. Nicolas Savard-L'Herbier, je le rappelle, le narrateur de cette série Chien de rue de Laurent Chabin, vers qui je me tourne façon de parler. Vous travaillez sur quoi en ce moment, Laurent?
Je devrais travailler, disons, parce que je suis séparé ces temps-ci, sur une histoire assez semblable, non pas vraiment de gang de rue, mais de marginaux, plus ou moins anarchistes autoproclamés, qui se font instrumentaliser par des gens bien au-dessus d'eux, qu'ils ne connaissent pas, donc qui vont se livrer à des déprédations, des attaques, des choses comme ça, dans le but de dévaloriser un quartier pour racheter à bas prix certains immeubles, les démolir et en construire des neufs.
Donc, vous êtes à nouveau dans les bas-fonds, dans les offres.
Oui, ce sera toujours des personnages de jeunes adultes qui se font avoir. Mais mes personnages sont rarement des méchants.
Non.
Marc, enfin Dingo, dans Les Chiens de rue, c'est pas un mauvais garçon.
Non. En plus, au début, la honte, la façon dont vous décrivez la honte, je sais pas si Nicolas est d'accord avec moi, mais il est littéralement mordu par la honte. Là, ça fait mal à lire, hein, c'est vrai.
Enseveli, oui, absolument. Ouais. Ouais.
Vous travaillez sur quoi, Nicolas, en ce moment maintenant, bon, là, cette émission va passer dans deux semaines, au moment où on l'enregistre. On espère qu'on sera encore un peu plus déconfiné ou carrément qu'on sera retourné chez nous. Oh non, pitié. Mais vous avez traversé ça relativement bien? Vous vous en sortez? Oui, vous travaillez sur quelque chose?
J'ai eu de la chance, moi, tout le mois d'avril, j'ai travaillé sur une émission sympathique pour enfants pour inciter les jeunes à bouger. Donc, je faisais la voix, j'écrivais les gags, je faisais la musique. C'est des 7 minutes d'entraînement. Puis là-dedans, il y a une espèce de petite mascotte là, qui vient faire des blagues. Fait que ça m'a occupé pendant tout mon mois d'avril.
Super.
À partir de mai, le doublage a repris. Donc non, je me plains pas. J'ai quand même été très chanceux dans toute cette situation-là.
Eh bien, je vais vous souhaiter une bonne continuation à Nicolas Savard-L'Herbier. Continuez ce que vous faites tellement bien. Je pense au doublage. En lecture, je suis sûre qu'on va vous revoir ici dans les studios. Mais oui, absolument. Et encore bravo pour votre très, très beau travail. Laurent.
Merci pour l'invitation.
Oh, ben non, mais de rien, ça m'a fait plaisir. Vraiment, 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 Nicolas. Laurent Chabin, je voudrais vous préciser que beaucoup de vos livres se retrouvent au SQLA, qui est le service québécois du livre adapté, où à ce moment-là, les livres sont offerts en audio gratuitement aux personnes qui vivent avec une déficience visuelle. Et là, oui. Il y en a énormément. Je ne sais pas si vous le saviez, mais il y a L'Assassin Impossible, Le Canal de la Peur, Le Chien à deux pattes, Le Collectionneur de vent, Compte à mourir debout, Le Corps des femmes est un champ de bataille. Oh, wow.
Oui. Vraiment pour les enfants, par exemple.
Oui. Mais écoutez, en tout cas, non, c'est ça. Là on est vraiment dans la littérature pour adultes, hein, complètement,
oui,
à ce moment-là. Mais je voulais quand même le faire savoir à nos auditeurs qui nous écoutent aussi très régulièrement et à qui l'imprimé n'est plus malheureusement disponible, que donc via le SQLA, ils peuvent se procurer beaucoup de vos ouvrages. Alors merci à vous deux, Laurent Chabin et Nicolas Savard-L'Herbier. Très, très belle initiative, je dois dire, de vues et voix que d'avoir enregistré aussi cette série-là, dont l'éditeur est Héritage Jeunesse, hein, c'est bien ça?
Oui.
D'accord, alors merci à tout le monde. Merci à Mathieu Tessier qui a fait l'enrobage musical de tout cela ici chez Vues et Voix.
J'ai hâte d'entendre d'ailleurs. Oui.
Alors merci à vous deux et j'ai vraiment été ravie de faire mieux connaître cette série Chien de rue qu'on retrouve sur livreaudio.vuesetvoix.com entre autres. Merci.
Merci beaucoup. Puis j'espère qu'à l'occasion, je pourrai rencontrer Nicolas quand on pourra enfin aller dans le star.
Ça aurait été le but de la chose. En studio, ça aurait été le but de la chose. Et puis voilà, oui. Covid oblige. On est encore obligé pour l'instant de faire ça par téléphone.
On va patienter un petit peu.
Allez, au revoir à vous deux et merci.
Merci beaucoup.
Bye.
Des livres pleins les oreilles, seconde partie. Alors, à nouveau Clotilde Seille en votre compagnie. Vous savez qu'on travaille très fort, ça paraît peut-être pas là, mais on travaille fort pour que tous les livres que nous produisons ici soient accessibles via vos bibliothèques, que ce soit ici à Montréal, mais partout, en région, partout. Exactement comme le sont tous les livres, mais en format audio. Et nous avons toujours ici à l'émission une pensée pour les personnes qui n'ont pas encore accès, qui n'ont pas accès à la lecture sur des imprimés ou qu'ils ne peuvent tout simplement pas se les offrir. Vous savez que pas mal de titres sont maintenant disponibles à tous via votre bibliothèque. Faut aller sur le catalogue Néligan si vous voulez faire une recherche et avec un peu de chance, vous allez tomber sur le livre audio déjà existant. Et en plus, on ne veut pas s'empêcher de souligner le travail que des bénévoles continuent d'effectuer ailleurs que chez Vues et Voix, pour les personnes à besoins spécifiques à qui la lecture n'est plus accessible. D'ailleurs, on continue à en faire aussi un petit peu ici, mais on n'est pas les seuls. C'est ainsi que je voudrais, moi, continuer de faire une place au CAEB, notamment, qui est représenté à l'émission par Faline Bobier, que nous allons retrouver aujourd'hui avec un immense plaisir. Ensuite, moi, je vais avoir des petites nouvelles et des nouveautés pour vous. Et je peux vous dire qu'on va faire pas mal dans le polar. Après tout, c'est le début de l'été, c'est la fin du printemps et c'est le début de l'été. Et puis, il y a des bons polars en été. C'est toujours agréable à se mettre entre les oreilles, surtout quand ce sont
des polars qui nous viennent du Nord, en tout cas pour l'un d'entre eux. Alors, le temps qu'on joigne Falline à Toronto, voici déjà pour le bonheur de nos oreilles.
Salut Sylvain, comment ça va vieux frère? Tu m'excuseras si j'ai pas trouvé le temps d'écrire avant, mais il se passe trop d'affaires. Puis Toronto, c'est pas la rue Saint-Jean. Ça fait 6 mois que je fais partie d'un groupe. Je joue les claviers, puis c'est plus que trippant. Faut dire qu'ici, la musique est au bout. Plus rien à voir avec nos shows d'avant. Prends pas ça mal, j'aime encore tes poèmes, mais c'est fini le trip des boîtes à chansons. Faut penser gros pour détruire le système. Pis les Anglais, y'a rien à faire, ils l'ont. Si tu voyais le stock qu'on déménage, juste pour te dire, ça nous prend 2 camions. Plus rien qui manque quand on part en voyage. Pis plus jamais de maudits problèmes de sang. Je t'envoie les mots d'une tonne que je viens d'écrire. C'est pas de ma faute, je suis meilleur en anglais. Mais si des fois tu pouvais me la traduire, bien entendu, c'est moi qui la chanterais. On vient de signer 5 ans chez CBS. Ils nous ont dit que tout ce qui nous manquait, c'est une tonne française pour le marché de l'Est. Sont forts à chaume, t'inquiète pas du succès. Le mois prochain, on part pour Los Angeles, vu que notre gérant est en Californie. On a compris qui c'est qui tire les ficelles. Et si des soirs je m'ennuie, mes amis, mon seul pays maintenant, c'est la musique. Puis la musique, c'est les États-Unis. Viens faire un tour avant d'être folklorique. Tu verras bien si c'est vrai ce que je te dis.
Oui, Sylvain Lelièvre qui nous envoyait cette lettre du Toronto. Toronto, d'ailleurs, où je retrouve Falline. Bonjour, Falline.
Bonjour, j'aimais beaucoup cette chanson. C'était qui, le chanteur?
C'est Sylvain Lelièvre.
Ah, oh, OK. Ben, il va falloir que je cherche ça.
Qui, ben, vous savez que malheureusement, il nous a quittés. Hein. Sylvain Lelièvre, il est parti trop jeune d'un cancer, si je ne m'abuse. Mais il nous laisse... écoutez, il y a quelques CD et toutes les chansons sont bonnes. Il a notamment fait une chanson sur le fleuve qui est absolument magnifique, sur son Limoilou aussi, où il vivait à Québec. En tout cas, c'est un chanteur. Si vous ne le connaissez pas, go Falline, go.
Oui, oui.
Falline, ravi. Pardon. Ravi de vous retrouver, Falline, à cette deuxième émission de déconfinement, où vous venez régulièrement. Vous ne l'avez peut-être pas entendu, mais je disais que pour nous, il était important de continuer à souligner le travail que font des bénévoles pour rendre la lecture accessible à des personnes qui n'ont plus, elles, l'accessibilité à la littérature ou à la lecture surimprimée. Alors, vous venez régulièrement pour nous présenter des livres qui vous ont marqué et vous trouvez que c'est important de leur faire savoir que ce livre-là existe via CAEB. On commence par le livre gagnant du combat du livre 2020. Waouh !
Oui, c'est ça, un lien familial par Nadine Bismuth. Je ne suis pas certaine de comment prononcer son
Moi, je
nom.
Dirais Bismuth.
Bismuth, ok.
Oui, c'est ça.
Ok. Mais en tout cas, c'est vraiment un livre qui parle des relations entre familles. Et le personnage principal s'appelle Magali. C'est un designer de cuisine haut de gamme d'une quarantaine d'années. Elle vit avec Mathieu, un avocat, qui est le père de sa fille de 5 ans. Et puis, à un moment donné, elle va apprendre qu'il la trompe. Et elle, ensuite, elle le trompe en retour avec Guillaume, qui est policier et père célibataire, qui est amoureux d'elle et qui est aussi le fils du nouveau chum de sa mère. Donc, il y a vraiment...
Attendez. Qui est aussi le fils du nouveau chum? Oh non. OK.
Donc, c'est un peu compliqué. Mais c'est vraiment un livre, je pense, qui traite de plusieurs choses, de l'infidélité, du couple, de la maternité. Donc, il y a toutes ces relations, tous ces rapports entre membres de la même famille ou de la famille exténuée. Donc c'est, et elle, en parlant de son livre, elle a dit « Ce qui me fascine là-dedans, c'est que malgré toutes les révolutions culturelles et sexuelles, les éclatements et les disparitions de modèles, l'infidélité reste une transgression. Et c'est sûr que d'un point de vue romanesque, la transgression et l'interdit sont des territoires qui sont toujours intéressants à explorer. » Et dans le livre, à un moment donné, il y a le couple qui va dans un restaurant qui s'appelle Madame Bovary. Et apparemment, ce restaurant existe vraiment au Québec. Oui, à Boucherville, je pense.
Ah, à Boucherville,
oui. Oui, c'est ça.
OK.
Et je pense que c'est intéressant parce que c'est vrai que dans le livre, un des thèmes principaux, c'est vraiment l'interdit. L'infidélité. Et si on pense à Madame Bovary, c'est vraiment l'histoire d'une femme qui...
Eh oui, absolument.
Qui va mourir d'une fin tragique à cause de son infidélité.
Absolument.
Donc, c'est un peu le même thème, mais évidemment dans une époque très différente.
Bon. Écoutez, j'aurais aimé qu'on puisse peut-être entendre un extrait au restaurant, mais celui que j'ai, je pense que c'est pas mal le tout début du livre et j'ai trouvé ça, ma foi, fort intéressant. Alors, j'en ai fait un petit montage. On se quitte pendant 1 minute 30 et on écoute un extrait du livre « Un lien familial » par Nadine de Nadine Bismuth, lu par une bénévole.
Comment suis-je arrivée là? Il est 8h15. Le soir du premier jour d'école de Charlotte. Mais au lieu d'être auprès de ma fille à recueillir ses impressions sur cette étape si importante, j'écoute tousser un obèse, assis 3 chaises devant la mienne dans la salle d'attente de la clinique médicale. Derrière le comptoir de la réception, protégé par une vitre aux reflets graisseux, la secrétaire aux cheveux frisés qui m'a accueilli un peu plus tôt, a les yeux rivés sur l'écran de son téléphone cellulaire, dont l'étui rose bonbon présente la seule touche de couleur dans ce décor trop beige et trop gris. Elle sourit et tapote fébrilement sur le clavier, comme je le ferais sans doute si, comme elle, j'avais environ 25 ans, terminais bientôt ma journée de travail et donnais rendez-vous à des copains dans un bar ou un restaurant. À moins qu'elle soit en train de discuter avec un inconnu, vers qui les algorithmes d'une application l'ont guidée et dont la photo lui a plu. Les possibilités sont infinies. À n'en pas douter, cette fille mène une vie aussi imprévue, spontanée et folâtre que les boucles de ses cheveux, de sorte que ce n'est pas seulement une vitre qui nous sépare, mais un mur de béton.
Très belle écriture, hein? très belle écriture. Faline, j'ai aussi très envie que vous nous parliez de ce polar qui nous vient du froid depuis maintenant une vingtaine d'années. Les Norvégiens, les Suédois, les Islandais, les Finlandais nous envoient des polars à nous glacer le sang et j'ai l'impression que celui-ci ne fera pas exception.
Oui, je l'ai connu seulement, vous savez, 1 ou 2 ans, mais comme vous dites, c'est un écrivain islandais qui s'appelle Ragnar Jonasson. je vais probablement massacrer la prononciation.
C'est pas grave.
OK. Alors, il est né à Reykjavik en 76 et ses grands-parents sont originaires de Siglufjordur et c'est la ville ou le petit village où se déroulent les événements du roman et d'ailleurs la plupart de ses romans. Et apparemment, il était grand lecteur d'Agatha Christie dès son plus jeune âge et plus tard des livres de P.D. James. Mm-hmm. Mais il entreprend à l'âge de 17 ans la traduction de 14 des romans de Agatha Christie en islandais.
Okay.
Alors, c'est impressionnant. Présentement, il est avocat et professeur de droit à l'Université de Reykjavik, mais évidemment, il est aussi écrivain. Ouais. Et cofondateur du Festival international de romans policiers qui s'appelle Iceland Noir ou Islande Noire.
Ouais.
Donc, ce dernier roman, ça fait partie de sa série de polars avec l'inspecteur Harry Thor, donc, qui vient habiter dans ce, on dirait un village idyllique, tranquille. Ouais. C'est un village de pêche dans le nord de l'Islande où personne ne ferme la porte, accessible seulement par un petit tunnel dans la montagne.
Oui.
Donc, c'est intéressant. Et c'est surtout aussi, et je pense que vivant au Québec, vous allez peut-être pouvoir comprendre, souvent l'hiver, c'est vraiment un personnage principal.
Oui.
Donc, tu parles de ce livre aussi. Oui. Donc, qui donne un certain sentiment de claustrophobie.
Oui, tout à fait.
Ouais, et dans ce livre qui s'appelle, je suis pas certaine encore de la prononciation, Sot, c'est S-O-2-T.
Oui.
Donc, la ville est mise sous quarantaine car on suspecte une épidémie de fièvre hémorragique. Donc, dans le titre du livre, parce que Sot ou S-O-2-T, ça veut dire fièvre hémorragique en islandais.
Oui, et puis j'ai trouvé que en cette période de déconfinement, ça tombait, oui. C'était très bien que vous nous reparliez d'une petite fièvre comme ça. Bon, l'heure tourne, alors je voudrais, avant qu'on se dise au revoir, rester en ligne. Je voudrais qu'on écoute un petit peu de Sot.
Oui,
nous sommes dans un couple, dans une maison. Soudain, bon, elle s'en va se coucher et lui, il entend du bruit et il pense qu'il n'a pas fermé la porte de sa terrasse.
Ah, ok, très bien.
Il regagna la chambre à coucher et la trouva assise au bord du lit en train d'enfiler un t-shirt. Incapable de cacher son angoisse, elle esquissa un pâle sourire. « Fausse alerte !» mentit-il. Avec un peu de chance, Suna ne remarquerait pas sa voix tremblante. « J'ai oublié de fermer la porte en sortant la poubelle, » poursuivit-il, « ou je l'ai mal fermée. Un coup de vent s'en est chargé, comme d'habitude. Ne bouge pas, je vais t'apporter quelque chose à boire. » Il se dépêcha de sortir de la pièce pour nettoyer ce qu'il avait vu. Il espérait prendre la bonne décision. Ne pas parler à Suna des flaques d'eau par terre, des traces de pas mouillées laissées par l'intrus. Le pire, c'est qu'elle ne s'arrêtait pas juste derrière la porte d'entrée. Elle menait à la chambre à coucher.
Alors, pour connaître la suite, eh bien, il faut se glisser entre les oreilles Sot de Ragnar Jonasson, qui nous était présenté par Faline Beaubier de Caeb. Je vous rappelle que ces livres-là sont lus par des personnes bénévoles. Merci infiniment, Faline. Je suis contente de vous avoir retrouvée. On va partager ça à nouveau, une petite chronique, quoi, dans 3 semaines, peut-être?
C'est ça. Et bon déconfinement, si on dit ça.
Oui, oui, oui. On peut se le souhaiter. Merci infiniment.
OK, bonne journée. Merci.
À bientôt. Au revoir.
Car qui soupire un détonateur livre l'amour à toute chaleur qui fournit la poudre et qui l'allume. Personne ne sait ni comment, ni où, ni quand. polka. Vieta, vata, vieta, passer la lune, le néant. Vieta, vata, vieta, derrière la dune, c'est l'océan. Est-ce une chambre, est-ce une cage? Enjôle-moi, belle geôlière. Suis-je en avance pour le carnage? La lune est haute, elle est pleine, elle est sincère. Mes amours, mes samouraïs, quoi faire? Viens-t'en, va-t'en, viens-t'en, mon cœur de fer est ton aimant. Viens-t'en, va-t'en, viens-t'en, dévore-moi doucement. Suis-je la flamme de ta bombe? Est-ce que je vole ou si je tombe? Est-ce le serment d'une seconde? Préfères-tu que je t'aime ou que je t'adore? Pour la nuit ou pour la vie, trop tard. Viens-t'en, 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 je te crois même quand tu mens. J't'haï, j't'haï, j't'haï. J't'aime infiniment.
Très belle chanson pardon, des Sœurs Boulay. Je vous rappelle que vous écoutez l'émission Des livres plein les oreilles. On parle uniquement de livres audio et on va parler d'André A. Michaud qui a remporté pour la deuxième fois dans sa carrière récemment le prix Arthur Ellis du meilleur roman policier canadien en langue française pour Tempête, paru chez Québec Amérique et qu'elle est venue lire chez Vues et Voix qui se retrouve sur notre catalogue livreaudio.vuesetvoix.com. C'est un livre, nous sommes sur un territoire sombre, hein, avec un camping inquiétant, une montagne qui abrite de drôles de choses, des personnages glauques. Elle est d'ailleurs très fière, Andréa Michaud, de m'avoir dit à ce micro, à l'émission des livres pleins les oreilles, que oui, c'est un univers inquiétant, voire terrifiant, qu'on trouve dans ce livre qu'elle a lu elle-même.
La peur, oui, est un peu le moteur du texte, le moteur de l'action. C'est la peur qui va pousser mes personnages à agir ou tenter de s'en sortir.
OK, là, on est dans la fiction ou on est dans l'onirisme?
Oui, ben j'aime laisser croire parfois que tout se passe dans l'esprit du personnage, alors que non, ça se passe pas seulement dans son esprit. Certaines choses, il les vivent réellement. Quand la pluie s'atténuait, j'ouvrais le pot de peinture, noir de jais, que j'avais rebaptisé Bloody Mary. Un verre de rouge à la main, je traçais alors des lignes sur le mur. Je dessinais des arbres, une forêt d'automne, une fresque naïve qui redonnait des couleurs au temps gris. Ces trois jours se sont ainsi déroulés entre le crépitement tranquille de la pluie et le glissement du pinceau sur le mur. Un glissement au son mielleux qui me rappelait que des milliers de fleurs allaient bientôt couvrir de jaune la neige oubliée. Le soir, je me postais devant la baie vitrée, sur laquelle je n'avais pas nettoyé le crachat de Franck, et je guettais l'apparition de l'homme de pierre, que l'absence de lune rendait invisible, mais qui s'approchait lentement, qui reprenait sa lente avancée au même endroit chaque nuit, sur le chemin boueux, ses pieds de plus en plus gros s'alourdissant de la vase dans laquelle il s'enfonçait, un homme de glaise qui sécherait au soleil, et viendrait s'effriter sur le pas de ma porte. Mon but, c'est de faire peur dans ce roman précisément. Je voulais m'essayer à l'horreur. Alors j'ai dit, voyons voir si je peux faire un roman qui fasse réellement peur. Je sais que certains de mes précédents romans peuvent aussi faire peur, mais là c'était mon but. Et quand on me dit, oui, j'ai eu peur en lisant ton roman, ben je suis contente parce que c'était le but que je m'étais donné.
Oui, elle peut être complètement ravie. Effectivement, ce bouquin fait peur, mais ne le manquez pas. Tempête de André Amichaud, qui a remporté, je vous le rappelle, pour la deuxième fois dans sa carrière, André Amichaud a remporté le prix Arthur Ellis du meilleur roman policier canadien en langue française. On parle souvent de ces plateformes de livres audio qui existent ici, chez nous, et qui existent en Europe. Mais vous savez qu'il y a une plateforme qui travaille presque spécifiquement pour les pays francophones d'Afrique. Ça s'appelle YouScribe ou YouScribe, comme vous le préférez. Le patron de cette plateforme-là, c'est Juan Pirlo des Corbion, ou des Corbion, peut-être, à mon avis, il est hispanophone. Et cette plateforme donc, s'adresse directement aux pays et aux bibliothèques numériques de langue française qu'on retrouve notamment en Afrique. Sous le label YouScribe, proposé par Orange, il propose un espèce de modèle innovant d'abonnement à la journée. Ça revient à peu près à 14 centimes d'euros pour se procurer notamment des livres audio. Ils sont présents dans 4 pays d'Afrique et pendant toute la durée du confinement, notamment au Sénégal et au Burkina Faso, pour accompagner les actions de solidarité du groupe Orange, qui est un groupe français à l'égard de ses partenaires et de ses clients, eh bien, ils ont réussi à faire en sorte que chaque mobile, chaque tablette pouvait avoir, que les gens possèdent, eh bien, ils pouvaient avoir accès à une bibliothèque de poche pour apprendre, pour s'évader à tout moment sans connexion à Internet. Sans connexion Internet et absolument gratuitement. Voilà pourquoi j'avais envie aujourd'hui de vous parler de YouScribe et du travail qu'ils font. Je vous propose, j'ai trouvé dans leur catalogue, bon, il y a beaucoup de livres qu'on retrouve sur toutes les plateformes, y compris de ceux que nous avons fait ici chez Vues et Voix, mais je me suis amusée avec des nouvelles de Maupassant. Voici un extrait d'une nouvelle de Maupassant.
Rosalie Prudent de Guy de Maupassant. Il y avait vraiment dans cette affaire un mystère que ni les jurés, ni le président, ni le procureur de la République lui-même ne parvenaient à comprendre. La fille Prudent, Rosalie, bonne chez les époux Varambeau de Mantes, devenue grosse à l'insu de ses maîtres, avait accouché pendant la nuit dans sa mansarde, puis tué et enterré son enfant dans le jardin. C'était là l'histoire courante de tous les infanticides accomplis par les servantes. Mais un fait demeurait inexplicable. La perquisition opérée dans la chambre de la fille Prudent avait amené la découverte d'un trousseau complet d'enfants, fait par Rosalie elle-même, qui avait passé ses nuits à le couper et à le coudre pendant 3 mois. L'épicier, chez qui elle avait acheté de la chandelle, payé sur ses gages pour ce long travail, était venu témoigner. De plus, il demeurait acquis que la sage-femme du pays, prévenue par elle de son état, lui avait donné tous les renseignements et tous les conseils pratiques pour le cas où l'accident arriverait dans un moment où les secours demeureraient impossibles. Elle avait cherché en outre une place à Poissy pour la fille Prudent, qui prévoyait son renvoi, car les époux Varambeau ne plaisantaient pas sur la morale.
Les classiques, hein, faut pas les oublier, ces bons vieux classiques. Guy de Maupassant, tel qu'il était lu ici. Ah, j'avais noté le nom de la jeune femme qui le lisait, et puis je ne sais pas ce que j'ai fait de mon petit papier. C'est pas bien du tout d'avoir fait ça, Clotilde. Mais bon, vous trouvez ça notamment donc sur YouScribe, parce que nous aussi, bien sûr, on a accès à ça. Mais je vous rappelle que c'est une plateforme qui est partenaire de la société Orange, qui est une entreprise de communication en Europe, en France, et il prévoit des développements futurs en Afrique et un développement organique, c'est comme ça qu'ils appellent ça, parce que plus il va y avoir d'éditeurs, plus la bibliothèque là-bas s'enrichira et plus il y aura de lecteurs. Nous visons, dit le patron de YouScribe, nous visons le 1 million d'abonnés pour la fin 2020. Et ensuite, avec le concours d'Orange Content, de chaque filiale d'Orange dans les pays d'Afrique, eh bien, Ils pourront proposer une solution, Youscree proposée par Orange, au Mali notamment, au Congo, en Guinée, où le service sera lancé en 2020. Alors, c'est vraiment, ben, je suis contente pour une fois d'avoir eu un écho de ce qui se passe sur le livre audio en Afrique francophone. Voilà, c'est ainsi que se referme ce magazine des livres plein les oreilles que je consacre chaque semaine sur les ondes de Canal M aux livres audio, à tous les livres audio qui se font sur la planète, mais bien sûr à commencer par chez nous parce que c'est la vocation de Vues et Voix. Je voudrais remercier mes invités du jour, Laurent Chabin, auteur, Nicolas Savard-Lherbier, qui est un narrateur, et Faline Bobier, qui est une chroniqueuse du CAEB, qui vient à l'occasion de nous présenter quelques nouveautés accessibles pour les gens qui vivent avec une déficience visuelle. Merci Jean-Sébastien Laliberté d'avoir été en régie. C'était Clotilde Say qui vous souhaite de vous mettre plein de livres entre les oreilles et qui vous dit à la semaine prochaine. Salut!